Bien, bonjour mesdames, messieurs, mes meilleurs voeux d'abord avant de continuer notre exploration de la figure d'Apamnapat que nous allons terminer aujourd'hui assez rapidement, mais je voudrais faire une dernière mise au point qui aurait valeur peut-être de conclusion et aussi de résumé sur cette figure divine. Donc Dumézil, en 73, dans le troisième volume de Mythes et épopées, nous a appris, au moins, qu'il fallait assumer le paradoxe d'une divinité qui était à la fois eau et feu. Dans ce contraste, il ne peut pas y avoir un contraste plus fort que celui-là, il y a peut-être, bien sûr, une donnée évémériste, le feu qui brûle effectivement dans l'eau, un phénomène qui peut être provoqué par le pétrole, et puisque le nom de Napat a donné le nom grec du pétrole, to nafta. Mais il y a trois données spéculatives qui sont peut-être plus importantes pour nous, puisque ce feu dans l'eau, il correspond à trois données qui sont dépendantes de la représentation indo-iranienne des trois départements de l'espace, le ciel, la terre et l'espace intermédiaire. Bon, pour le ciel, il y a bien sûr le soleil qui se reflète dans l'eau ou qui sombre dans la mer ou dans quelconque pièce d'eau. On sait que l'image du soleil pour Apamnapat est privilégiée par l'Avesta. Nous avons vu la formule de base de son yajt qui nous a appris qu'il partageait les épithètes usuelles du soleil. L'espace intermédiaire, privilégié par la rhétorique des hymnes védiques, c'est l'éclair, qui disparaît progressivement lorsque tombe la pluie de l'orage. Cela, c'est l'espace intermédiaire. Maintenant, pour la terre, c'est bien entendu le feu rituel. Nous l'avons vu, c'est le feu rituel. On ne peut pas envisager sa mort. On ne peut pas envisager qu'il puisse mourir. Pourtant, il faut l'éteindre. Dans un sacrifice de type brahmanique, l'autel du feu n'est pas permanent. Il faut éteindre le feu, il faut l'éteindre, le faire disparaître d'une manière ou d'une autre, et puis, lors du sacrifice suivant, on le rallume. C'est un cycle de naissance et de mort qui est clairement exprimé dans les hymnes du Veda. Mes auditeurs du séminaire le savent bien. C'est pas, le feu est un taureau qui engendre dans les eaux un embryon. Cet embryon devient un nourrisson qui est nourri dans et par les eaux. Et puis, retiré des eaux, on l'allume cette fois naturellement avec des copeaux, alors que jusque-là, il brûlait, comme disent les textes, sans bûche. Le destin du feu rituel, à cet égard, est lié à celui des eaux. Il faut obtenir le consentement des eaux à être sorties de leur lit pour être installées sur la litière sacrificielle. Donc, il faut leur demander instamment de passer de l'état naturel à l'état rituel. Destin commun aussi parce que le feu qui est allumé, puis éteint, puis rallumé, les eaux aussi, elles sont capturées, puis rendues à leur cours après le sacrifice. Il y a là un double processus que les hymnes védiques associent explicitement, et dont on trouve certainement des traces dans l'Avesta, comme nous l'avons vu lors du dernier exposé. Et c'est d'ailleurs ce double processus d'extinction du feu rituel, de retour des eaux à leur cours, qui fonde en théologie la fin du yasna. Comme nous l'avons vu l'an dernier avec le yasna 60, la Dharma Afriti, le cursus sacrificiel est terminé. L'essentiel s'est produit, le sacrifice a réussi. Et pourtant, on va encore consacrer quelques chapitres à rendre hommage au feu, c'est le Yasna 62, et à rendre hommage aux eaux, la Tashniya Yishn, ce qui signifie en moyen perse la fondation du feu, et Yasna 63 à 71, la Abzor, c'est-à-dire la libation aux eaux. Il faut, comme nous l'avons vu dans ce texte, dans l'Abzor, très clairement, on présente des excuses aux eaux pour avoir contrarié leur courant, et on sollicite leur immobilité stagnante, ce qui est certainement un reste de ce que nous lisons dans les hymnes védiques. On salue aussi leur arrivée et leur départ, étrange formule qui ne se comprendrait pas si cela ne voulait dire l'arrivée des eaux sur l'aire sacrificielle et puis le retour au courant après la cérémonie. Et entre ces allusions, comme nous avons vu, on trouve l'invocation au feu, à Attar, et l'invocation à Apam-Napat, sa forme aquatique. Or, Apam-Napat existe encore, existe aussi par ce qu'il est, ce n'est pas indifférent, il est avec les eaux le ratou de l'après-midi, l'articulation de la période du jour de l'après-midi, de temps qui va de midi au coucher du soleil. Il est en cela le feu rituel qui est confié aux eaux et que celle-là convoie doucement vers la nuit, pendant que le soleil décline aussi, et que, paradoxalement, on active les banals feux domestiques. Vous savez, nous savons que l'Yasna 58, n'est-ce pas, le feu de la razzia est éteint, parce que la razzia est la métaphore de l'offrande carnée, le feu dont on a procédé à la transsubstantiation, comme nous l'avons vu l'an dernier, est éteint, et alors on allume, bien sûr, les feux domestiques qui sont contraires, pas les feux de la conservation, celui dont le feu qui protège le bétail et les biens de la communauté. Alors voilà, nous pouvons faire trois remarques conclusives. Vous savez que dans l'énoncé du cours que je vous présente cette année, j'ai parlé de Dieu qui survit. Apam-Napat, certainement, est un Dieu qui survit. Il survit de manière précaire, puisque et c'est de cette existence-là, avec ses limites, nous avons pu faire quelques hypothèses. Cette hypothèse, c'est une hypothèse de chronologie relative. Apam-Napat est un dieu qui avait conservé assez de pouvoir fonctionnel pour être érigé en ratou, en articulation de la journée. C'est sa place dans le yasna. C'est la justification aussi de son apparition finale dans « L'Atash Niaïch Nelabzor ». Il avait conservé ce pouvoir fonctionnel donc au moment où la collectanée du yasna a été réalisée. Mais il n'avait plus ce pouvoir fonctionnel pour être repris au calendrier. Aucun jour du mois ne lui est consacré. Et en corollaire, son hymne ne figure pas dans le corpus des yachts qui, d'une manière ou d'une autre, illustre le calendrier. Donc, le yacht d'Apam-Napat serait entièrement perdu si le yacht 19 ne nous avait par bonheur conservé son refrain avec assorti d'une petite histoire. C'est pour nous peut-être un indice que je crois assez probant qu'entre la collection du yasna, entre l'assemblage du corpus du yasna et l'élaboration du calendrier, le feu rituel est devenu sédentaire. On ne l'éteint plus, mais on le conserve peut-être pas tout de suite de manière permanente. Nous savons que les premiers temples iraniens, les premiers temples mazdéens, remontent à la fin, à l'extrême fin du 5e siècle avant notre ère. Mais on peut aussi le conserver d'une manière ou d'une autre. Le remiser, quoi. Je ne sais pas de quelle manière. Mais progressivement, de cette manière, Apam-Napat est devenu un dieu sans emploi, un dieu fossile. Voici pour illustrer cette catégorie des dieux du panthéon mazdéen. Hein. Alors, je voudrais faire une seconde remarque, c'est qu'il y a une conception qui est globalement indo-iranienne d'Apam-Napat. Et cette conception est une conception strictement sacrificielle. C'est une conception sacrificielle des choses. Cela explique sans doute les divergences avec les autres mythes portés en comparaison par Dumézil. Apam-Napat est une substance ignée, certes, mais il ne garde pas les eaux. Il n'est pas le gardien des eaux, comme dans le débordement du lac Albin, comme Neptune dans le débordement du lac Albin ou Nectane. Il partage le destin des eaux dans le cycle rituel, qui, bien sûr, exige un agent non pas qualifié, comme le dit Dumézil, dans le domaine indo-iranien du moins, mais quelqu'un qui est proprement désigné par sa fonction. Il porte un nom dans le rituel védique, c'est l'Advaryu. C'est l'Advaryu qui se charge de prendre les eaux dans le courant des fleuves. L'Advaru, or, dans le collège des sacrifiants, des huit prêtres officiants de la Vestie Crescent, il y en a un dont on parle très peu, mais qui porte un nom significatif. Il est Laberot, ce qui représente très probablement, avec la simplification du groupe consonantique, celui qui apporte l'eau. Il semble donc que son nom fonctionnel signifie que c'est lui qui est chargé, sans doute, de faire passer les eaux de cet état de nature à l'état du rituel. Alors, Apamnapat, certainement, n'opère pas de débordement, comme le lac Albin ou comme le puits de Nectan. C'est le Kwarna qui, provoqué par un personnage illégitime, se meut et provoque un débordement. Mais Apamnapat lui-même, personnellement, comme force présente dans les eaux, participe à la distribution de la pluie sur la terre, comme l'exprime le Yasht 8 à Tishtria. Donc, il est probable, nous devons certainement concéder cela à Dumézil, que Neptunus et Nectan prolongent par leur nom la même divinité. Mais il y a dans chaque domaine indo-européen des innovations spécifiques. Les trois contextes dont nous disposons pour l'indo-iranien est un contexte strictement rituel. Et la conception d'Apamnapat que nous pouvons lire dans nos textes est une conception sacrificielle. Elle a pu se teinter de nuances, de cette manière, de nuances qui ne sont plus présentes dans les mythes irlandais ou latins. Et il faut compter, par exemple, nous savons bien pour le latin, très certainement l'influence du grec Poséidon sur le personnage de Neptune. Mais il faut aussi que nous concédions qu'il y a, dans la méthode des comparatistes étroits, une vue qui échappe de manière fréquente. C'est que l'héritage indo-européen d'époque ancienne, je veux dire par là l'indo-iranien, le grec, le latin, n'est-ce pas, parce qu'ils sont des langues attestées, je dirais, à l'époque païenne, donc où la tradition religieuse est vivante, sont des domaines qui sont encore vivants. Ils ne sont pas fossilisés. Ils ne vivent pas uniquement de l'héritage du passé. Ce sont des domaines mouvants et malléables. L'Avestique, comme nous allons le voir, nous allons parler des dieux qui naissent, n'est-ce pas ? Dans le domaine du panthéon mazdéen, comme dans celui probablement du panthéon védique, hein, l'époque des théogonies n'est pas close. On fabrique encore des divinités, on les fabrique encore. La mythologie n'est pas non plus le reflet du passé. Elle se forge sur les personnalités divines. À époque historique, c'est un fait que nous ne pouvons pas passer sous silence, même si parfois j'ai eu de petits accrochages il y a un an avec Colver Watkins qui toujours essaye de ramener à un passé commun les faits littéraires, même, n'est-ce pas, que nous avons dans nos textes. C'est très certainement un abus. Nous devons compter avec une puissante capacité créatrice à l'époque même où nos textes ont été rédigés. Alors, très clair, je vous réfère ici, à propos de permanence littéraire, signaler de très intéressantes survivances indo-iraniennes, non plus indo-européennes, entre la Apamnapat des Indiens védiques et la Apamnapat de l'Avesta. Vous savez que lorsque Apamnapat s'empare du Kwarna, il vit dans les eaux, comme son nom l'indique, mais cette eau n'est pas n'importe quelle eau. C'est un concept qui est, semble-t-il, essentiellement iranien. C'est une mer, je donne son nom au nominatif, c'est un mot neutre, donc l'accusatif sera semblable, Zrayo, le mot c'est Zraya. Zraya. Et c'est une mer qui a de larges bords, Vourou, Kachem, le bord, et ceci signifie large. C'est quelque chose de spécifiquement iranien. C'est le réservoir céleste des eaux. C'est là que l'eau, d'une manière ou d'une autre, qui remonte de la terre vers le ciel, se concentre avant de revenir à la terre. c'est un endroit très convoité, parce que c'est là que se trouve la pluie, et la pluie est rare en Iran. Donc c'est un concept essentiellement mazdéen. Or, dans l'hymne du Rig Veda 10 à 30, Apandnapat est désigné par l'épithète Purtu, ce qui signifie large, Jrayas. Attention, Jrayas, c'est très exactement Zraya. Purtu ne correspond à rien apparemment, mais il a un synonyme qui est Uru Jrayas dans d'autres hymnes. Or, Uru, c'est très exactement Vuru. Voilà deux points de contact terminologique absolument incontestables entre les deux représentations. Le problème, c'est que le mot Jrayas ne signifie pas l'étendue d'eau. Ce n'est pas la mer, ni le lac, ni la rivière. Renou a fait une analyse de ce mot. Il dit c'est le parcours accompli par les vivants, le parcours accompli par le dieu. Apandnapat serait ainsi désigné comme celui qui opère un large parcours. Le parcours. Ça, c'est la première. C'est le premier point commun terminologique. Maintenant, le second. Il se trouve donc, lorsqu'il saisit le Kwarna, dans la mer Vuru-Kesha, dans le Zrayo Vuru-Keshem. Oui. Mais le texte donne une précision. Il se trouve au fond de la mer. Alors, le mot du fond, oh, c'est un vieux mot indo-européen. Vous pouvez le reconstruire de cette manière-ci. Bund no. Ce qui, évidemment, cet ensemble complexe de consonnes sera dans les différentes langues indo-européennes simplifié. Nous avons en indien le fond et butna. Butna. Il y a une dissimulation nasale. En iranien, la simplification est plus forte. Buna, buna. Et bien entendu, comme c'est le latin fundus, qui survit dans le mot fond du français et dans le concert des langues modernes, c'est l'allemand Boden. Il se trouve au fond. Or, un des noms d'Apandnapat dans les hymnes védiques, il est représenté comme un ahi. Ce mot-là n'est pas. C'est le seul ahi, serpent ou dragon, et c'est le seul qui ne soit pas négatif. Celui-là, c'est un nom d'Apandnapat. Apandnapat se figure comme un ahi. Il est ahi, donc serpent ou dragon, et il porte comme caractérisation Boutnia. Le serpent de l'abîme. Le serpent du fond de l'eau, Ahi Butnia. On ne peut donc pas considérer qu'il s'agit d'un hasard si la précision de cette localisation tout au fond de l'eau, d'Apandnapat, nous a été donnée. Alors, nous allons conclure, dernière remarque sur ce dieu Apandnapat, c'est le point sensible de l'analyse de Dumézil, c'est la collision qu'il opère volontairement ou involontairement, mais c'est à peu près inévitable, à un moment donné de son analyse, entre Apandnapat et le Kwarna. Je m'y arrête un instant. On a souvent malheureusement parlé du Kwarna. Je n'aime pas, parce que je trouve qu'on en parle trop. Mais enfin, parfois, il faut bien s'y tenir. D'abord, la représentation que Dumézil, en 73, avait du Kwarna, vous pouvez peut-être vous y reporter si vous avez les documents, c'est dans la note 2 de la page 24, est une conception obsolète. Non seulement obsolète, mais partiale. À l'époque où Dumézil écrivait, effectivement, il y avait dans l'explication du mot Kwarna deux grandes tendances. Ou bien on en faisait un dérivé neutre du nom du soleil, Zvar en védique, Huar en iranien, donc un dérivé du nom du soleil, ou alors un composé. Hu, c'est le mot sou, donc le préfixe positif, bon, et un dérivé arena, qui signifierait une racine ar, donc l'acquisition, la bonne acquisition, la prospérité en quelque sorte. L'hypothèse solaire était représentée par du chêne d'Ima, auquel il est explicitement fait référence dans la note, et qui est l'un des informateurs iranologiques de Dumézil avec Vikander. L'autre hypothèse que Dumézil ne mentionne pas est celle de l'anglais Harold Walter Bailey. Duchesne d'Imain et Bailey, nonagénaires, se disputaient encore à cet égard. Enfin, donc leur discussion a duré très longtemps. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que ce n'est pas le cas pour des raisons linguistiques extrêmement simples et qui ne sont pas contestables. C'est que le nom du soleil est dissyllabique. Le nom du soleil compte deux syllabes en métrique. Souvar. Souvar. Rouwar. Un composé en hou, n'est-ce pas, il n'y a pas de contraction. Hou arna doit compter trois syllabes, parce que hou ne se fond pas avec le second terme. La métrique des gata en atteste de manière absolument indubitable. Or, le mot kwarna ne comporte que deux syllabes. Si l'explication par « hu » ou si l'explication par le nom du soleil était correcte, il aurait trois syllabes. Il n'en a que deux. Il faut donc trouver une autre explication. Nous en disposons maintenant. Hein, si je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je pense que tout au moins une bonne amorce de solution a été donnée, grâce à un parallèle védique qui a été remarqué par Alexandre Lubotsky, qui a d'ailleurs fait l'exposé ici même, n'est-ce pas, il y a quelques années. En védique, on sacrifie aux dieux, ce sont des instrumentaux d'intérêt, par intérêt pour Raya, la richesse, c'est Rai. Raya, Parinasa, la richesse et l'abondance, Parinas. Le mot parinas étant donné la disparition phonétique régulière du i qui représente une ancienne laryngale en position interconsonantique en iranien, la forme devait être parna. J'ai omis de vous dire que où est le parallèle, car Raya Parinasa, ça représente Raya Kwarnanghacha dans les Yasht, par intérêt pour la richesse et le Kwarna. Or, le mot Kwarna, c'est la difficulté, c'est la raison pour laquelle, si l'on y tient vraiment, toutes les hypothèses peuvent être combattues. C'est un mot établi sur une double phonétique. Il n'y a pas de remède à cela. C'est-à-dire qu'à la forme avestique, qui est celle de Kwarna, hein, Kwarna avec le re initial, nous trouvons en moyen perse le terme Farna. Farna. Re représente un ancien soe. Un F, c'est difficile. C'est difficile. Dans une racine indo-iranienne ancienne, on voit mal d'où cela peut provenir. Mais remarquez que c'est une labiale. Nous nous sommes rapprochés insensiblement de la forme théorique, n'est-ce pas, que nous pouvons poser pour égaler le mot au sanskrit parinas. Alors comment expliquer le F ? Comment expliquer ensuite le re ? Cela, c'est pendant, n'est-ce pas ? Pour expliquer le F, Lubotsky a une hypothèse, il vous l'a exposée. Il pense que c'est un mot site. C'est un peu gênant, parce que, vous savez, les sites en Iran jouent dans l'iranologie à peu près le même rôle que les templiers dans les romans policiers. Quand on ne sait pas comment s'en tirer dans son intrigue, ben on les fait intervenir. Les sites, c'est très exactement ça, dans les problèmes iraniens. Hein ? Je ne sais pas. Mais cela participe de la double phonétique. Alors, je voudrais tout de même attirer votre attention sur une hypothèse que j'ai jugée très longtemps extrêmement simpliste et qui est celle d'Éric Pirard. dont sa traduction, bah, je profite pour vous la montrer, qui vient de paraître de quelques textes des Yasht, vous verrez qu'il traduit Kwarna par aliment. Traduit Kwarna par aliment. C'est tout simple. C'est tout simple parce que la racine qui signifie manger est la racine Kwar. Kwar. Seulement, et bien entendu, le problème de la double phonétique subsiste. La forme avec labiale initiale n'est pas éclairée par là. On pourrait s'en tirer. Hein. Je pourrais faire une hypothèse qui est elle aussi simpliste, mais qui n'est peut-être pas au fond si fausse. C'est que d'une certaine façon, Lubotsky a raison. Nous avons la forme iranienne de parinas, la profusion. Seulement, comme cette profusion, cette abondance est celle naturellement de la nourriture, il y a pu y avoir ce qu'on appelle une étymologie populaire, c'est-à-dire un remodelage du mot d'après la racine signifiant manger. Or, maintenant, j'ai en effet le soupçon aux auditeurs de mon séminaire il y a quelques séances. Il y a quelque chose qui, dans l'hymne d'Apamnapat, l'hymne 2.35, est extrêmement intéressant. C'est qu'une des racines fréquentes, dont les occurrences sont fréquentes dans l'hymne 2.35, c'est la racine pi. Pi. Qui est parfois, le i est parfois long, il est parfois bref. C'est ce que Verba appellerait une racine vête, c'est-à-dire parfois claringale, parfois sans. C'est une racine qui signifie littéralement gonflé. Gonflé, mais qui ne s'emploie pratiquement que pour la crue des eaux et le lait maternel. L'abondance du lait lorsque une femme ou un animal accouche. L'emploi moyen, c'est se gonfler, c'est se nourrir pour le nourrisson. Or, vous savez, Pamnapat est un nourrisson présenté comme cela, métaphoriquement. C'est le mot « pipaya », un faux transitif, dira Renou. Effectivement, anormalement, alors que cela signifie « se nourrir », le verbe est un actif. Il se nourrit dans les eaux. Sa nourriture, par excellence, c'est un dérivé de la racine « pi ». En védique, « piyusha ». Ça désigne le premier lait, le lait d'une femme qui a un enfant pour la première fois ou d'une vache qui a son premier veau et qui, elle, bien sûr, va continuer à produire du lait ensuite. Donc, c'est le premier lait. C'est la nourriture d'un Pamnapat. Or, lorsque le Kwarna échappe à la fois à Jidahaka, qui personnifie l'eau pure, et Atar, qui personnifie le feu pur, pas sans mélange. En quelque sorte, le Kwarna s'échappe, c'est une de ces quelques évasions du Kwarna dont nous avons parlé, et il va donc aboutir dans la mer Vorokasha, où Apamnapat, qui combine l'eau et le feu, le pourra le saisir. Eh bien, le verbe qui désigne ce mouvement est tout à fait inusuel, ce n'est pas un verbe de mouvement, fra qui indique le mouvement vers l'avant, c'est le verbe pi. Il se gonfle littéralement en direction de la mer Vorokasha. Or, Apamnapat, typiquement, est un dieu qui se nourrit. Son hymne répète à satiété Annam Atti. Le verbe manger, il mange, c'est le latin édoré, hein, ad. Il mange la nourriture, objet interne donc. Hein. Ad, c'est bien sûr adno. Adna pour le maître, lui donner sa forme moyenne iranienne. C'est une expression que nous ne pouvons pas retrouver dans les textes avestiques. Parce que pour une raison ou une autre, la racine ad signifiant manger a disparu. C'est un verbe qui a disparu au profit de la racine « khwar » dont je faisais ici, qui signifie à la fois « boire » et « manger ». et qui correspond comparativement dans le domaine indo-européen à l'anglais to swallow, hein, avaler. Donc il y a là une différence dialectale qui exclut effectivement que l'on puisse retrouver cette idée de nourriture, n'est-ce pas, dans l'hymne d'Apamnapat. Or, lorsqu'on précise quelle est cette nourriture, on considère qu'elle est de couleur dorée, Hiranya, dorée, de couleur dorée. Elle est définie comme le beurre, Gurta. C'est la nourriture d'Apamnapat. Gurta, c'est le beurre liquide. Le beurre liquide, donc celui qui sert aux libations. Hein. Là, le mot zautra ou le mot hautra, qui signifie l'offrande liquide, c'est, dans les hymnes védiques, en tout cas, on ne spécifie guère en avestique, mais c'est le beurre fondu. C'est le beurre fondu que l'on verse dans le feu sacrificiel ou que l'on verse apparemment dans les eaux, l'abzor. C'est la libation aux eaux, n'est-ce pas ? Donc on fait une libation d'offrande liquide aux eaux, le hautra. Or, cette libation est de beurre fondu. Alors, voyez où j'en suis. Pas tirer les conclusions vous-même, mais le kwarna apparaît bel et bien comme un aliment. Il est doré, c'est vrai, il est lumineux, même si son nom ne dérive pas du nom du soleil. C'est un fluide lumineux. C'est quelque chose qui a un rapport évident d'apparence avec le feu sacrificiel. Mais il apparaît comme l'aliment d'Apamnapat, ici, dans le contexte où nous sommes. Il apparaît comme un aliment qui représente peut-être la version avestique, mais autrement composée et autrement érigée en entité que le beurre fondu purement sacrificiel des hymnes védiques, n'est-ce pas ? Alors, faut-il y voir l'aliment par excellence, l'aliment avec la majuscule que lui accorde Éric Pirard ? Je suis ébranlé et je vous ai donné les raisons que j'avais de l'être. Si l'on fait attention malgré tout à la portée des mots, vous savez, dans les textes, nous en avons déjà si peu, ben, il faut certainement ne pas prendre les textes avec... avec une certaine désinvolture. Alors le rapport difficile, hein, la confusion que Dumézil a supposée entre le kwarna et Apamnapat, mais il n'est pas le seul, sa suite l'a fait, en essayant de s'expliquer de manière plus explicite. Puis ensuite, plus récemment encore, l'an dernier, dans le dernier article paru sur Apamnapat, Norbert Oettinger a aussi dit que d'une manière ou d'une autre, le kwarna était... un morceau, en quelque sorte, d'Apamnapat, était une part d'Apamnapat. Ben, oui, mais peut-être est-il, au fond, son aliment, hein, pas son, l'aliment, pas cette allégorie du beurre que l'on verse dans les eaux à l'intention du feu qui y réside ou à l'intention des eaux elles-mêmes, je ne sais pas. Je vous donne les raisons, peut-être, qui nous permettraient de faire cette hypothèse. Alors voilà, nous avons terminé avec ceci, peut-être la première partie de ce cours, c'est-à-dire la partie consacrée aux dieux qui survivent. Il nous reste la seconde partie, c'est-à-dire nous allons nous intéresser aux dieux qui naissent, ces théogonies avestiques qui nous ont retenus, au fond, les deux dernières années. Parmi les divinités du calendrier, les divinités qui ont un yash, les divinités qui jouent un rôle comme articulation de la journée, comme ratu, période du jour, il en est trois dont nous avons abordé la problématique lors des deux dernières années. Il y a deux ans, nous avons parlé des Fravashi. Hein, nous avons parlé des Fravashi. L'an dernier, nous avons envisagé le cas du dieu Srausha et le cas de la déesse Ashi. Ces trois divinités ont en commun un état linguistique particulier. Leurs noms, ce ne sont pas des divinités védiques, leur nom n'a pas été érigé en celui d'une personne divine dans les hymnes védiques. Mais la terminologie, leur nom s'explique par une terminologie qui est bien présente dans les hymnes védiques également et qui représente ici aussi des conceptions strictement sacrificielles, rituelles et sacrificielles. Le nom des Fravashi, je vous le rappelle, fonctionne c'est un nom qui construit sur le préverbe pra, je le donne en la forme qu'il devrait avoir en indien, et la racine var, var qui signifie choisir. Or, ce choix est envisagé dans le contexte des textes que nous possédons, qui sont des textes religieux. Ce choix-là est un choix, en général, sacrificiel. Enfin, on fait le choix d'une divinité à qui rendre le sacrifice. Nous avons vu un cas, je pense, on dit Varnimahe, nous choisissons. Nous choisissons Indra et Vayu. Nous choisissons Indra et Vayu, c'est-à-dire notre sacrifice sera adressé. C'est la dédicace sacrificielle. C'est le choix de la cible. C'est eux qui seront les bénéficiaires de ce sacrifice-ci. On peut faire le lendemain un autre choix, si l'on veut. C'est aussi le choix des officiants. Les officiants choisissent un hotar, un zautar en avestique, c'est-à-dire un directeur de la cérémonie, en quelque sorte, celui qui va prendre la responsabilité de la cérémonie. Ce choix des officiants, c'est aussi la racine var. Et bien entendu, les dieux peuvent le faire à ce moment-là. Ils doivent agréer les sacrifiants. Ça peut être, le dieu est désigné comme cible sacrificielle. Les officiants sont acceptés, sont agréés par les dieux. Bon, cela, c'est une représentation commune indo-iranienne. Donc, les divinités, les fravachis, peut-être que l'allégorie qui incarne le choix sacrificiel n'est pas devenue une divinité à proprement parler en védique. Le processus de théogonie ne s'applique qu'en contexte mazdéen. Le dieu Srausha, comme nous l'avons vu, c'est avec sa coloration de subjonctif aoriste dans sa formation, ce qui est assez curieux, il incarne la puissance des sonorités sacrificielles. Dans le Yasna 27 avestique, comme dans les hymnes védiques, les sonorités sont bien sûr la sonorité des prières, les sonorités de la récitation. Mais c'est aussi le bruit des pressoirs. Le bruit des pressoirs, dont on parle fréquemment, qui pressure le hauma ou le soma en Inde, si vous voulez. Or, Srausha incarne tout cela. Il incarne tout cela, comme le verbe dont il dépend dans les hymnes védiques. Il est le dieu des sonorités, mais il n'est devenu cela que du côté iranien. La déesse Ashi, avec cette notion de partir quelque part et puis de revenir, avec l'image du char qui incarne ce déplacement, c'est le circuit départ-arrivée. Je me dis, pour la déesse Ashi, c'est cela qu'elle incarne. Donc, d'une certaine manière, ce circuit est métaphorique du dos d'Es sacrificiel, bien entendu, n'est-ce pas ? Les offrandes doivent partir chez les dieux. C'est Ashi qui les convoie et les récompense, les bienfaits, parvenir chez les hommes. Ça, c'est le retour. Or, cela aussi est une image fréquente dans les hymnes védiques. Le char qui part chez les dieux, ou le char que les dieux mettent en mouvement pour qu'il arrive chez les hommes avec leurs bienfaits. Mais l'allégorie de cette réaction est essentiellement iranienne. Alors voilà, nous avons envisagé leur cas lors des deux dernières années, je vous les rappelle à titre d'information, parce que nous allons nous intéresser cette année, maintenant, à une autre divinité qui partage cette communauté de destin de ces autres dieux. C'est un dieu du calendrier, un dieu qui a son yasht, c'est Vertrakna. Dieu Vertrakna. La graphie avestique est toujours, pour les voyelles, un peu compliquée. Nous dirons comme ceci, avec le gamma, Vertrakna. C'est le Yasht 14. Le Yasht 14, il est malheureusement, je vous le dis tout de suite, peu informatif. Peu informatif avec une petite nuance que je ferai plus tard. Le Yasht de 14 au dieu Vertrakna est quelque chose qui nous paraît un peu. Bon, nous apprend pas grand-chose sur la personnalité du dieu. On sait seulement que c'est un dieu qui se transforme. Il prend diverses formes. En tout cas, c'est ce que l'on dit régulièrement. Car il apparaît 9 fois à Zarathoustra sous une forme différente. C'est toujours sous la forme d'un animal ou d'un homme, une fois le vent, mais la plupart de ces apparitions sont celles d'un animal particulièrement viril. le taureau, le chameau en rut, un bélier. Donc ce sont des animaux d'une virilité exacerbée. Donc vous voyez ce qu'on peut faire de cela, n'est-ce pas? Ça nous rappelle quelque chose, mais qui appartient plus, je vais dire, à la culture vulgarisatrice qu'à la science réelle. On pense aux avatars de Vishnu, etc. Bon, il prend des formes diverses, mais il faudra préciser. C'est peut-être autre chose qui est en jeu. Là, nous y reviendrons. Et puis le reste, ça c'est quelques recettes de sorcellerie. Quelques recettes de sorcellerie. On place dans la bouche du dieu Vrtrakna quelques conseils adressés à Zarathoustra pour se prémunir contre toutes sortes d'attaques ou de mauvais sorts. Donc, ça apprend peu. Alors, la vue traditionnelle sur cette divinité... excusez-moi, je vais commencer par le tout début et vous parler du livre qui est aujourd'hui encore le livre de référence sur la divinité, c'est le Vrtra Vrtrakna, paru en 1934, ça fait déjà bien longtemps, donc, hein, et qui est un livre écrit en collaboration par deux hommes qui étaient jeunes à cette époque et qui devaient avoir dans leurs sciences respectives une importance particulière, puisqu'il s'agit pour le côté iranien d'Émile Benveniste, il avait 32 ans à l'époque, et pour la partie indienne, Louis Renou, qui avait 39 ans, je crois, en 1934. Or, la collaboration de ces deux auteurs, qui n'est pas commune, hein, il n'y a aucun passage commun dans le livre. La partie iranienne est traitée à part par Benveniste, la partie indienne par Louis Renou, et puis il y a une conclusion due à Benveniste. La participation est très, très précisément notée. Bon, alors, c'est un livre dont je vous ferai part de ma perplexité devant ce livre, parce que beaucoup des conclusions pratiques auxquelles il conduit sont fausses, et la méthode est remarquable, par contre. Il est très étonnant qu'un livre qui aboutissent à des conclusions fausses à partir d'une méthode aussi exacte, aussi nouvelle et aussi juste. C'est une chose d'ailleurs assez curieuse, qui tenait sans doute au tempérament d'Émile Benveniste surtout, parce que les infinitifs avestiques qui sont parus l'année suivante ont les mêmes caractéristiques. Tous les détails sont faux et la méthode est remarquable. Et la méthode, non seulement elle est remarquable, mais... la conclusion générale est-elle aussi exacte, hein? Méthode exacte, conclusion exacte, mais tout le cheminement du raisonnement est établi sur des erreurs en partie. C'est une chose assez étonnante. Alors, pour le dieu Vrtrakna, Benveniste a résumé dans son introduction d'une façon remarquable ce qui était en 1934 la vision qu'on avait du dieu Vrtrakna, et elle est la suivante. Pour cela, il faut que je fasse un peu de place, il me permette de l'exposer. Le Rig Veda indien. Dans le Rig Veda indien, le dieu Indra tue un démon qui a la forme d'un serpent, d'un dragon, un Nahi. Il tue un démon qui s'appelle Vrtra. Et puisqu'il a tué ce démon, on va lui accorder l'épithète de Vrtrahan, tueur de Vrtra. Dra est effectivement défini tout au long du Rig Veda comme le tueur de Vrtra, Vrtrahan. Or, il y a dans la Vesta, ça c'est le premier point, il y a le deuxième point du raisonnement traditionnel que vont tenter de réfuter Renou et Benveniste, n'est-ce pas, c'est que Vrtrahan a un équivalent iranien qui est Vrtrakna. Vrtrakna. Donc une équivalence. Vrtrahan, Vrtrakna. Effectivement, dans une certaine mesure. Et troisième et dernier point, dès lors, conclusion, Vrtrakna est le nouveau nom iranien d'Indra, et la mise à mort d'un démon Vrtra, quoique l'Avesta n'en dise rien, est un mythe indo-iranien. Voilà la vue traditionnelle. Alors, Benveniste, premier mouvement de sa méthode, il va proposer une méthode de vérification en deux points. Il y en a un troisième dont il ne parle pas tout de suite, on va voir. Mais il y a un premier point, c'est qu'il faut faire une analyse exacte du mot d'abord. Bon. C'est nécessaire à l'époque où il écrit. À l'époque où il écrit, c'est nécessaire car quelque chose obscurcissait de façon absolue les choses. C'est que l'on accordait au mot « vertra », qui compose « vertrakna » en iranien, le sens de victoire. Le sens de victoire, c'est tout à fait... C'est aberrant, mais c'est la position du dictionnaire de Bartholomé et c'est la traduction sur laquelle concordent tous les traducteurs de l'Avesta jusqu'au livre de Benveniste Renoux. Bon, donc premier point, une analyse exacte du mot vertra. Enfin, faire une analyse exhaustive des textes témoins de la personnalité de l'Iranien vertrakna. Une analyse exhaustive, dit Benveniste, parce qu'il ne faut pas faire tomber dans le piège du choix tendancieux des exemples. C'est malheureux, hein, évidemment, c'est souvent le cas, n'est-ce pas, lors des analyses, je dirais, un peu trop désinvoltes des choses. Et malheureusement, il y a, nous savons bien ici, il y a deux choses que nous allons non pas rectifier mais nuancer tout de suite. Faire l'analyse du mot. Benveniste traduira souvent cette analyse par le mot étymologie. Faire l'étymologie. Vous savez combien, auprès de vous, j'ai déjà fait de réserves sur ce qu'est l'étymologie dans notre domaine d'étude. Il n'est pas nécessaire de faire l'étymologie du nom de vertra, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le mot n'a pas changé de forme d'après la reconstruction que nous ferions. Le mot n'a pas changé phonétiquement. Donc, il ne s'agit pas de situer son origine quelque part. Ce n'est pas simplement le mot est lisible, mais il nous faut simplement sémantiquement préciser le sens qu'il a. Cela, bien sûr. Mais donc, je fais une nouvelle fois le... Bon, fravachi non plus, n'est-ce pas? Le mot fravachi, c'est à propos des fravachis que je vous ai fait cette remarque méthodologique, c'est qu'il n'est pas question de faire l'étymologie de fravachi. Le mot n'a pas changé de figure. C'est fravarti, nous le voyons bien. Mais qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Quelle est la racine qui est là derrière? Quelle est donc la représentation? Pas l'origine, mais la représentation des choses qui explique la personnalité divine. Alors, le deuxième, le choix exhaustif des exemples, certes, mais quelque chose à cette époque fait défaut à Benveniste. Benveniste travaille à l'époque où l'on considérait l'Avesta comme un débris hasardeux. Il fera peut-être l'analyse exhaustive des passages, mais il ne va pas situer ces passages dans leur contexte, parce que simplement on l'estime que ce contexte est le résultat d'un désastre, n'est-ce pas, qui nous a valu de perdre la majeure partie de l'Avesta et que ce qu'il nous reste, ce sont des débris survivants et ajustés dans un ordre tout à fait sans signification, comme le pensait son maître Meillet. Donc, les passages seront sans doute analysés exhaustivement, mais ne seront pas mis en contexte. Bon, ça, c'est les réserves que je puis faire. Alors, que va faire Benveniste? Bien, il va revenir au sens littéral. Il va donner effectivement. Nous avons ici fravachi, c'est la racine var, choisir. Nous avons l'autre racine var, la racine anit. C'est la racine qui signifie couvrir. Couvrir avec un sens centrifuge ou un sens centripète, centrifuge, c'est prévenir l'évasion de quelque chose. Ou le sens centripète, c'est empêcher l'intrusion de quelque chose. Donc, couvrir dans ces deux sens-là. Dès lors, il remarquera, et ça, c'est le résultat, la conclusion de son analyse du mot, c'est tout simple, nom, c'est un nom neutre en trop, indo-européen, donc la racine au degré zéro, ver, couvrir, plus le suffixe tra, qui est un suffixe de nom d'instrument en neutre. L'instrument, ce sont des mots neutres. Or, effectivement, le mot vertra, que nous trouvons dans l'Avesta, qui ne signifie donc pas la victoire, est effectivement un mot neutre. Un mot neutre qui désigne une force. Et une force qui est une force apparemment, en tout cas, militaire. une force militaire. Mais en rassemblant bien ces exemples, Benveniste va montrer, là de manière tout à fait indiscutable également, que Vertra, il y a une complémentarité entre Vertra et une autre notion militaire qui est Ama. Ama sont deux notions complémentaires. Et Benveniste établira, je crois de façon décisive, je ne crois pas que quelqu'un en doute, que Vertra, c'est une puissance défensive. C'est la résistance. Hein, couvrir, effectivement, empêcher l'intrusion, empêcher l'évasion, c'est la résistance, le fait que la résistance, la force des résistances, tandis que Ama est l'opposé, c'est la force offensive, celle que l'on déploie dans l'assaut. Donc, il y a deux notions complémentaires. D'ailleurs, Ama est une divinité aussi, c'est une divinité secondaire, subalterne. Vous savez que chaque dieu masdéen, comme je vous l'ai expliqué, je crois, dans l'introduction à ce cours, est entouré d'acolytes. Or, Ama est l'acolyte de Vertrakna. C'est Ama et son acolyte. Et il a une deuxième acolyte, c'est une déesse, où figure aussi le nom de la victoire, d'ailleurs, c'est une déesse qui s'appelle Vananti, elle est victorieuse. Vananti. Ou paratat, la réserve celle-là, parce que c'est un mot qui, en dépit de son apparente simplicité, on traduit de manière d'ailleurs qui n'a jamais été mise en cause par la supériorité victorieuse, aussi donc une allégorie abstraite. Mais là, nous y reviendrons. Alors, voilà le côté iranien est analysé pour le sens du mot Vertra. Or, le mot Vertrajan, l'épithète de Indra, premier terme, Vertra, la force de résistance. Second terme, le nom racine de la racine Jan, frapper ou tuer. Cela construit bien sûr un composé adjectif, celui qui tue Vertra. C'est le nom de. C'est l'épithète préférentielle d'Indra. C'est un mot connu dans sa forme iranienne, Vertrajan. Nous en avons déjà parlé souvent. Vertrajan, c'est la forme iranienne. Et ce composé adjectif, Vertrajan, qui brise la résistance, est dans l'Avesta l'apanage d'un certain nombre de quatre. Je ne peux pas compter. Comme vous allez comprendre pourquoi, les divinités exactes. Il y en a en tout cas trois. C'est Hauma, le Soma. Particulier cela. En 1934, Benveniste et Renoux ne l'ont pas noté, mais plus tard, Renoux y est revenu dans les études védiques et paninéennes pour noter que le Soma védique ne porte pas l'épithète de Vertrahan. C'est une particularité. En avestique, Hauma, oui. C'est une de ses épithètes fréquentes. Il est Vertrajan. Je fais allusion à cela, d'ailleurs, dans un cours il y a quelques années. Ensuite, le dieu du vent, Vata, le vent divinisé. Peut-être parce que, du point de vue de l'image, le vent donne l'image exacte de ce que peut être le fait de briser la résistance, quelque chose, peut-être. Mais en tout cas, le vent est fréquemment associé à la personne de Vertrakna. Et puis alors, Srausha. Srausha, oui. Et nous avons vu pourquoi. Srausha, il semble que le Yasna 44-16, une strophe gathique, semble le désigner par le mot de Vertrajan. Or, c'est, semble-t-il, à partir d'une exégèse, que nous avons essayé de pister lors du cours de l'an dernier, que l'Avesta récent a fait de Vertrajan l'épithète systématique de Srausha, donc le dieu des sonorités du rite. Alors il ne faut pas s'étonner si ce caractère briseur de l'obstacle, briseur de la résistance, est aussi l'apanage non plus de Dieu, mais des prières en général. Je dis prières entre guillemets, parce que j'entends par là les formules introductrices de l'Avesta ancien, la Hunavairia, la Shemvohu, le Yenkeatam, mais aussi, surtout, la prière conclusive pas, qui est l'Arya Manishya. L'Arya Manishya est la strophe briseuse d'obstacles par excellence. Mais cela va bien entendu de pair avec Srausha, les sonorités du rite, où la récitation des textes partage assez naturellement la même particularité, quoique nous y reviendrons pour préciser. Alors voilà la conclusion de ces deux premiers mouvements de méthodologie accomplis par Émile Benveniste, c'est qu'il n'y a pas en Iran un démon Vrtra. Il n'y a pas de personnage déterminé qui soit ainsi nommé. C'est simplement l'allégorie, la personnification divine d'une force. Vrtra est la force de résistance. Et le composé Vrtrakna, où c'est la forme thématique de Vrtrajan, bien sûr, mais du coup, ce n'est plus un composé adjectif, c'est un composé nominal, c'est là aussi une abstraction, c'est le fait de briser l'obstacle. Donc un composé substantif, nominal, le fait de briser l'obstacle. Il n'y a donc pas de véritable équation linguistiquement entre Vrtrajan, entre Vrtrahan et Vrtrakna. Ce ne sont pas les mêmes mots. L'un est adjectif, l'autre est substantif. Mais Vrtrakna, c'est aussi une force divinisée, là une vraie personne divine qui a reçu un jour du mois et qui a reçu un yasht. C'est la force qui permet de briser la résistance de l'adversaire. Bien, alors, troisième point, le point de méthodologie que Benveniste n'a pas signalé dans son programme, mais qu'il l'a accompli. Et nous efforçons aussi de faire la même chose, cela se recommande. Je vous ai vanté la méthodologie du livre. Il a procédé, bien entendu, par ce que j'appelais lors de la leçon dernière la fiche signalétique. La fiche signalétique d'une divinité, c'est la formule de base de son yasht. Les épithètes qui lui sont accordées dans le refrain sont évidemment très significatives d'une personnalité. Et Benveniste va faire cela pour Vrtrakna. Là, il faudra que je sois un peu plus long pour m'expliquer ici, parce que c'est ici que vont se manifester les quelques distorsions qui sont celles de l'iranologie d'une époque, qui sont celles d'Émile Benveniste en particulier. Si vous souvenez des cours d'éventuelle historiographie que j'ai pu faire il y a une dizaine d'années, vous savez que Benveniste, tout au moins dans sa jeunesse, mais je crois qu'il n'a jamais dit plus tard ce qu'il en pensait, lorsqu'il est à un certain âge, avait voulu restaurer l'importance d'une doctrine religieuse iranienne que l'on appelle le zervanisme. Il est le premier représentant historique, n'est-ce pas, de la tendance à reconnaître dans la situation religieuse de l'Iran ancien une situation sectaire au sens de Max Weber. C'est-à-dire qu'il y aurait eu dans l'Iran ancien une multiplicité de sectes religieuses dont le zoroastrisme n'en serait qu'une parmi d'autres. Donc le zurvanisme en tout cas, puis une religion des Ahouras qui serait une religion comparable à la religion védique, etc. C'est cela que Benveniste, cette vieille idée qu'il avait défendue en 1929, qui va réapparaître dans ce passage-ci, et j'y accorderai un peu plus de temps lors de la leçon prochaine. Pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention. Merci.